Assalamu alaikum, shalom, bonjour, nous sommes le vendredi 6 octobre 2023, il sonne 11h et nous nous invitons au club La Presse de ce jour, émission qui s'anime au studio de Canal FM ici à Lomé, mais émission que vous écoutez, que vous suivez un peu partout au Togo par le biais des médias partenaires comme Radio Lumière qui émet à Nera, Radio La Paix depuis Atakpamé, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Sama FM à Baga Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapan, et ce n'est pas fini, un peu partout sur tout le continent. Vous êtes en communion avec nous par le biais des radios numériques, Radio Le Bénin, Radio Ebene Radio, les applications Canal FM, même sur la chaîne YouTube. Et Tek aussi Thomas Datevi et Gérard Kodjo Akucha aux différentes manettes techniques. Le sage nous apprend aujourd'hui que, citation, on trouve toujours de l'argent pour faire la guerre, mais jamais pour faire la paix. Encore une fois, on trouve toujours et de l'argent et les moyens et les énergies pour faire la guerre, mais jamais assez pour vivre et pour faire la paix. Francesco Kosigbande Napokura, bonjour.
Oui, bonjour Sas Gaou, bonjour aux auditeurs et auditrices de la nouvelle génération.
J'ai le bonheur de t'avoir à nos côtés dans ce studio pour le club La Presse de ce jour.
Oui, c'est toujours un plaisir.
Ça veut dire que tu es toujours en liberté.
Ah oui, bon, peut-être en sursis.
Ok, justement, dis-nous, il y a 2-3 semaines, tu avais défrayé la chronique, bien malgré toi, suite à cet article de ton journal Tampa Express sur les réseaux qui rôdent ou bien qui rôderaient autour des concours nationaux de la fonction publique. Cela t'a valu 2 ou 3 convocations à la direction générale de la police judiciaire. À un moment, nous avions même craint qu'on te traduisit devant le procureur de la République qui pourrait éventuellement t'inculper. Alors, où est-ce que tu en es dans ce dossier, Franco?
Bon, c'est
ça, naturellement, entrer oui, dans
oui,
le fond.
Oui, c'est deux convocations. Donc, le 21, nous avons comparu.
21,
le 21 septembre, nous avons comparu à la direction centrale de la police judiciaire.
La direction centrale plutôt de la police
voilà, judiciaire. Voilà. De 15h, on sortait à 19h30. Et puis, une autre convocation a été dressée parce que nous allons demander à nous référer à nos conseils et également à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Donc, une seconde convocation a été dressée le 21, là, sur le 25, le lundi, à 15h. Nous y étions et là, accompagné de Maître Elom Padé. Et donc, à la fin, la police a pu dresser, disons, un projet de procès verbal. Et normalement, selon le directeur, je crois, M. Bolenga, on devait revenir lire ce procès verbal corrigé et être déféré par devant le procureur de la République. Mais sur le champ, je vous rassure que Maître Padé a été olympique et très clair en disant au directeur de la police qu'il est en train de confondre les procédures parce qu'il est en face d'un journaliste professionnel légalement connu par l'AHAC et qui a exercé dans son journal qui est régulier. Donc, à ne pas confondre ou fondre avec... disons un Togolais lambda qui aurait publié sur les réseaux sociaux. Donc il y avait eu on ne sait pas d'où venait un chef d'accusation. On nous a dit on sera poursuivi pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Donc, le projet de procès verbal a été saisi chez eux, hein, à la police. Donc, ils ont dit qu'ils vont nous appeler pour qu'on se présente. Donc, nous attendons cette nouvelle convocation où je ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est pourquoi je dis que nous sommes dans l'incertitude. C'est à tout moment, on peut nous racler.
Merci à toi, Franco. Vivement, c'est un dossier qui nous intéresse. À chaque fois qu'il y aura un nouveau développement, nous en parlerons. Je rappelle que les deux convocations qui ont été adressées à Franco l'ont été par la direction centrale de la police judiciaire. Contrairement à ce que j'avais dit par l'absus au début. Nous attendons un deuxième confrère avec qui nous allons parcourir la semaine.
Mais ça, si vous permettez, ouais, pas pour le même dossier. Et il vous souvient que nous avions été alertés depuis le 10 septembre dernier, qu'il y a un monsieur au niveau de Bassar qui s'apprêtait à organiser une petite réunion dans une école. Il s'agissait de monsieur Fobil Nikabou. C'est dans le village de Kalanga, à 20 km de la commune rurale. Il était parti le matin informer le chef du village qu'ils ont une réunion. Le chef lui a posé la question de savoir est-ce que il a reçu l'autorisation avant de venir. Il dit non, ce n'est qu'une petite réunion entre frères du village et autres. Et malheureusement, il était dans sa douche quand la gendarmerie est venue encercler sa maison. On l'a transporté, on l'a amené à la gendarmerie. Il a fait quelques jours et plus tard, on l'a déféré à la prison civile de Bassa. Mm-hmm. Ce que je vous dis.
Et pour quel motif?
Et on l'inculpe pour trouble à l'ordre public.
Et donc, est-ce qu'il avait déjà commencé à organiser sa réunion?
Je dis qu'il était dans sa douche quand la gendarmerie a encerclé la maison. Et c'est comme ça qu'il s'est réhabillé rapidement. Et depuis, je vous dis, le 10 septembre, il est parti fêter la fête des ignames et a voulu rencontrer ses frères et soeurs. Il se retrouve comme ça en prison. Jusqu'à ce jour. Hier, quand nous avons pris langue, on nous a dit qu'il sera jugé le 10 ou bien le 12 prochain. Et écoutez bien, on dit à la famille de ne pas faire du bruit, don't make a noise, ok? Et que, comment l'appelle-t-on? Ça dépendra de comment il va parler, sinon on est en train de lui tirer les oreilles. Vous imaginez comment on utilise les instruments, les institutions
des formes de
la République d'intimidation. Donc voilà la situation à Bassa. Voilà ce qui aussi fait craindre qu'à tout moment, n'importe qui peut débarquer ou bien n'importe quand de rue, on peut vous prendre comme ça et on vous afflige, n'est-ce pas, un chef d'accusation. Voilà la situation.
Merci. Ce que Tampa Express et son directeur ont en cours à la direction centrale de la police judiciaire, le cas avec ce compatriote Abassa que Franco vient de partager avec nous. Tout cela nous replonge dans le 33e anniversaire du 5 octobre 1990 avec la naissance de ce mouvement où les Togolais veulent plus de droits et libertés, plus de liberté, plus de démocratie, l'état de droit que nous allons reparcourir aujourd'hui avec Franco naturellement. Et le deuxième confrère que nous attendons, il vient de nous rejoindre, c'est Germain Sohanapoli. Bonjour.
Bonjour Sas, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Canal F.
Les auditeurs que tu as fait attendre pendant 10 minutes.
Oui, c'est vrai, toutes mes excuses.
Pour des raisons naturellement indépendantes de ta volonté.
Totalement indépendant.
Eh bien, je rappelle que Germain Sohanapoli est le directeur publicant du journal Togo Réveil. Mais depuis quelque temps, ça fait 2-3 semaines, il a été également porté à la tête du Conseil national des patrons de presse. Germain, Monsieur le Président, c'est la première fois depuis ton élection que nous voyons dans ce studio au Club de la Presse. Eh bien, veux-tu nous dire en une minute comment tu penses aborder ton mandat comme nouveau président du CONAP?
Le nouveau président du CONAP, c'est avant tout un bureau derrière lui. Un bureau qui a le privilège d'avoir en son sein assez de jeunes Et assez de femmes, c'est la première fois aussi qu'il y a deux femmes.
Et dans... tu n'as que deux femmes dans ton bureau, hein?
C'est la première fois qu'il y a deux femmes dans un bureau.
Deux femmes sur combien?
Sur 12.
Sur 12. Et c'est beaucoup.
Bah, c'est pas comme le gouvernement où le tiers des membres sont des femmes. Nous, on a fait cet effort. Le précédent bureau, il n'y avait qu'une femme. Et parfois, il n'y en avait pas du tout. Donc, il y a les jeunes, il y a les femmes. Et puis, il y a les membres qui nous ont fait largement confiance, qui vont nous appuyer pour qu'ensemble, on relève les défis qui sont les nôtres. Vous savez que économiquement, c'est difficile. Notre mandat, c'est sous le thème presse, liberté, développement. C'est surtout de la liberté au développement parce que nous sommes suffisamment libres. Nous avons gagné 30 places l'année dernière. Nous sommes 70e sur 180 pays. On a laissé 110 pays derrière nous. Mais économiquement, je ne pense pas et nous ne pensons pas que nous avons la même place. Donc, ça veut dire que nos entreprises sont en réelle difficulté pour plusieurs raisons sur lesquelles peut-être on ne va pas revenir ici. Mais nous comptons nous repositionner et puis être des entreprises viables, productives et puis qui font des bénéfices aussi, pourquoi pas, pour mieux traiter nos collaborateurs qui font partie des couches les plus mal payées dans notre pays. On ne le dit pas assez, mais les journalistes, peu sont au SMIC. Plusieurs ont des mois d'arriérés dans certains organes et je pense que c'est parce que nos entreprises sont en difficulté économiquement que cette situation règne. On va améliorer notre offre, on va diversifier nos activités, on ne va pas faire que la presse, on va faire autre chose aussi pour être des entreprises qui peuvent tenir et puis voilà, on va se repositionner, être plus près de nos populations, offrir aux populations ce qu'elles veulent parce que notre offre n'est pas totalement en adéquation avec les besoins du moment. Et puis, il y a cette concurrence de l'Internet et des réseaux sociaux. Nous allons passer à la digitalisation de tous les médias membres du CONAP. Donc, voilà un peu quelques grands axes sur lesquels nous allons travailler. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, la liberté, seule ne suffit pas. Il faut être économiquement autonome, il faut être économiquement viable. Nous avons fait des bons en termes de liberté, malgré quelques petites difficultés encore. Nous sommes en tout cas bien positionnés, je le disais tantôt. Mais en ce qui concerne les entreprises de presse, puisque depuis un an maintenant, nous sommes des entreprises et une entreprise doit être productive et doit faire des bénéfices, nous devons nous former, nous devons travailler à diversifier nos offres et puis passer à cela. Donc je pense
merci que... Germain. Je rappelle juste qu'entre-temps, la convention collective des professionnels des médias a été adopté, signé par tout le monde, mais soumis à un moratoire d'un an qui va expirer incessamment. Les patrons de presse, les patrons des entreprises de presse devraient se préparer à assumer les charges inhérentes à cette convention. Nous y reviendrons en temps opportun et à chaque fois que de besoin. Juste rappeler encore que la liberté de presse. Nous avons le CONAP, PPT, nous avons
Brigitte
et consorts. Nous avons des organes également de médias. C'est la liberté de presse, liberté d'expression, comme liberté d'opinion, comme liberté de manifestation politique, comme pluralisme politique, comme multipartisme. Voilà quelques fruits concrets que nous touchons au jour le jour, comme fruits de ce qui a commencé le 5 octobre 1990, même s'il y a encore beaucoup de défis, c'est normal.
Et ça, c'est pour les médias. Oui. Je peux Franco. Mettre un petit mot, puisque oui. La crise des femmes, l'inexistence, quasi inexistence des femmes dans la presse, c'est général.
Non, les femmes sont là.
Oui, elles sont là, mais...
Seulement pas tellement à des postes de responsabilité, aussi bien dans les organes que dans les organisations.
Oui, même trouver une femme dans l'investigation, c'est difficile. C'est le reportage, c'est le compte-rendu. Même vous avez vu, à la TVT, en temps, il y avait eu une ascension de Mme Dorothée Tavio et puis Aminata Adrou, elles ont été, déclassées, alors que c'est ce qui devait se faire. Vous prenez les médias d'État, il n'y a pas de femmes responsables. Heureusement que nous avons une ministre, femme, à la tête du ministère. Je crois qu'elle pourra faire quelque chose. Mais Germain, la liberté, oui, nous gagnons des places, mais il faut que ça se traduise dans la réalité. Si vous étiez à la place de Francisco Napokora, vous ne direz pas que vous êtes en liberté. Donc, chacun est en train de tailler.
Je voulais dire autre chose, c'est sur le 5 octobre. Je crains qu'on risque en Afrique de revenir encore à des 5 octobre dans les années 2030 et 2040, parce que quand on voit ce qui se passe avec les coups d'État aujourd'hui, ces militaires qui arrivent.
Jamais la vie est un cycle. Ce qui s'est passé peut se reproduire si on n'appréhende pas les choses à bon escient, surtout si on ne sait pas anticiper. On peut malheureusement se laisser rattraper par ce qui est déjà arrivé par le passé. Le 5 octobre, justement, il y a très peu de journaux qui s'y intéressent. Il y a quand même Togo Matin qui écrit aujourd'hui 5 octobre 90, qui prône la recherche de la paix. Et le Canard indépendant qui revient sur la rencontre que la DMP, la Dynamique pour la Majorité Populaire, conférence de presse d'il y a 48 heures, avec cet article, retard dans l'organisation des élections législatives, la DMP contre toute prolongation du mandat des députés. Et le changement paru hier, qui a également traité cette information, rappelle que au sujet du processus électoral conduit dans l'impasse, la DMP dit n'accepter que du fait du régime, il y a une prolongation de fait ou unilatérale de l'Assemblée nationale. Pour la DMP, il s'agit pour le gouvernement d'anticiper les changements brusques qui s'opèrent dans les pays de la sous-région pour enfin trouver des solutions au désir d'alternance des populations au Togo. Et pour revenir ici au Togo, la DMP dit qu'il urge que le pouvoir initie des assises nationales inclusives et décisives en vue de trouver des solutions durables de sortie de crise permettant aux Togolais d'assurer enfin l'alternance et de s'engager dans la voie de la démocratie et d'une prospérité partagée. Franco, voilà, il n'y a que, sur le terrain politique, il n'y a que la DMP, le seul groupement de partis politiques qui s'est prononcé sur le 5 octobre 90. Les autres, peut-être que dans les jours à venir, on les sentira.
Oui, c'est l'existence du parti politique qui doit faire du bruit. Ils font du travail, ils font le peu qu'ils peuvent avec le minimum de moyens, de liberté qu'on leur accorde. Mais je pense que notre débat politique doit aller au-delà. Moi, je dis toujours, je crois, bien avant l'organisation des dernières élections législatives dont le mandat est en train de finir, et même quand il se profilait à l'horizon, disons, cette élection municipale, et même un référendum avait été annoncé, nous avons était, devant les micros dans pratiquement tous nos débats, mais je crois que nous avons même fait des articles là-dessus, que le Togo doit rompre avec le cycle électoral. Nous sommes dans une spirale d'élections, c'est-à-dire chaque deux ans et demi, le Togo doit organiser des élections. Et vous voyez ce que nous perdons comme argent dans l'organisation de ces élections.
Franco, d'autres te diraient que la tenue régulière des élections est plutôt une preuve de la vitalité de la vie démocratique dans
le
pays.
Oui, mais c'est quoi? Quand vous avez une élection, après d'autres voient en exil, et les contentieux électoraux qui sont accumulés, non, ce n'est pas des élections. Je dis, on doit rompre avec le cycle électoral. Ce qui dit quoi? Si, par exemple, nous avons une élection en 2023, vous savez que 2025, nous avons élection encore. Et plus tard, avec les élections municipales qui vont arriver, pourquoi ne pas trouver un consensus politique pour envoyer toutes les élections en une seule année, pour que, au moins une fois pour de bon, les Togolais fassent une élection générale? Ça se fait au Burkina, ça se fait au Mali, mais on dit que c'est le Togolais qui n'est pas intelligent pour pouvoir cumuler des élections et faire la distinction.
Donc, au Burkina, au Mali, sinon, ces pays ne seront pas aujourd'hui en transition militaire, avec même l'incertitude sur les éventuels référendums.
Le problème, c'est le djihadisme, c'est le terrorisme qui est la cause, d'accord, de leur chose. Mais je dis, il faut qu'on arrive à concentrer les élections autour d'une seule année. Et que quand on finit d'organiser, c'est ce qui se fait en France. Il n'y a pas beaucoup de temps en France.
Ouais.
D'accord?
Ouais,
voilà. Si on arrive à ça, on aura économisé beaucoup.
Nous avons commencé avec des cycles, avec des calendriers et républicains que nous sommes tenus de respecter. La preuve, la DMP dit déjà ne pas être d'accord qu'on ne puisse pas tenir les élections législatives d'ici décembre et que l'Assemblée se retrouva de facto reconduite unilatéralement. Ça veut dire que Germain, depuis 90, nous avons dit que nous allons à la démocratie. Nous devons faire l'effort de sacrifier aux impératifs de la démocratie, justement.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est peut-être en 90 qu'il fallait coupler toutes ces élections et prendre un bon départ. Ça n'a pas été fait. Après, en 2007, ça a été plus ou moins bien avec les premières élections législatives reconnues transparentes. Et puis après, c'est que les élections ne coïncidaient pas. Donc on ne peut pas dire que les élections générales sont forcément la meilleure formule. Hein. Dans les pays où on les fait, je ne vois pas une vitalité démocratique. En termes de dépenses, c'est vrai que ça fait plusieurs dépenses, on peut rassembler tout ça, mais si aujourd'hui, vous le disiez, on dit, ok, allons aux élections générales en 2025, ça veut dire que les députés vont rester en place jusqu'en 2025, ce que certains partis n'entendent pas hein, de cette oreille. Donc vous voyez que s'il faut un consensus, c'est vrai, j'ai écouté un jeune leader de parti politique le week-end passé, qui avançait aussi les mêmes idées. Il disait qu'il n'irait pas aux élections si ce ne sont pas des élections générales. Je dis, peut-être il faut un large consensus. Maintenant, il y a un cadre permanent de concertation. Qu'est-ce que ce cadre dit? Si le cadre décide, je pense que ça peut se faire, puisque en 2012, il devait y avoir des législatives qui ont eu lieu finalement en 2013.
Il y avait une situation de crise, un an de bonus,
donc c'est toujours possible de repousser. Mais il faut un consensus, et si les acteurs politiques qui sont les plus intéressés dans ces questions sont d'accord. Mais ça m'étonnerait, parce que quand on voit une réaction comme celle de la DMP, je ne pense pas que les partis seraient prêts à laisser les autres poursuivre leur mandat.
Mais là où Franco a raison, il faut rompre avec le cycle des élections à problème. Où on fait une élection, il y a contestation, certains sont obligés de s'exiler. Ça, c'est d'un. Et également, les élections ayant un coût, on peut peut-être trouver une formule pour que ces élections ne grèvent pas trop notre budget.
Peut-être aussi,
que nous gagnerions plutôt à investir dans des domaines.
Il faut dire aussi sur les contestations au niveau des élections aussi. Il faut qu'il y ait un fair play. Il y a des vaincus qui n'ont pas de preuves de fraude, mais qui s'entêtent à dire qu'il y a eu fraude et puis qui s'entêtent dans des aventures sans issue. Quand vous perdez une élection, il faut aussi avoir le fair play de féliciter le vainqueur et puis c'est la
merci.
Démocratie.
Merci, tu as bien trouvé ça. Le fair play. Ouais. Le fair play, c'est ce dont auraient vraiment besoin les héritiers de Maître Yovie Agboibor, hein, membre du comité d'action pour le renouveau, le cas qui... depuis le mois d'avril, avec le congrès, tient la vedette, bien malgré lui, hein, dans les médias et sur les réseaux, lesquelles incompréhension entre les deux camps, pourtant revendiquant l'héritage du seul et maître Agboibor, eh bien, ces incompréhensions se transportent à présent devant la justice. Et nous apprenons que l'une des tendances, à savoir ceux qui se revendiquent bureau de la transition présidé par Aoku Nador, ont saisi le juge des référés pour débouter les sieurs Konlani, Yendoubam et Robert Daté. Et c'était le 25 septembre et le 29 septembre, le juge des référés s'est déclaré incompétent à connaître du fond de ce litige. Dans la foulée, ceux qui sont sur les réseaux, dans les médias, vous avez eu connaissance de la note d'information que M. Nicolas Kokou Agbo, vice-président du bureau présidé par Yao Daté, a sorti une note d'information pour rassurer les militants du cas. Et puis, hier 5 octobre, M. Nador Aoku, comme président du bureau transitoire, lui aussi fait sortir un communiqué de presse pour revenir sur le même sujet. Alors, nous avons laissé de deux côtés les deux bords politiques. Nous avons cherché et trouvé un homme de droit il est maître en droit privé, il est consultant en droit privé, pour nous faire l'analyse juridique de cette crise au CAR. Monsieur Kanye Folie, Maxime, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers auditeurs.
Et auditrices, s'il vous plaît.
Et auditrices, bien évidemment. Et merci de me recevoir sur votre antenne ce matin afin de clarifier juridiquement la situation de crise au CAR.
Nous ne faisons que notre devoir et c'est un plaisir de vous avoir. Je l'ai dit, il y a les deux camps politiques. Il y a le camp qui se revendique bureau de transition. Il y a le camp qui se revendique bureau élu à l'issue du congrès réédité le 27 mai. Mais nous vous avons sollicité pour votre analyse, votre éclairage juridique sur la question. Nous sommes d'accord, monsieur Kanye?
Oui, nous sommes tout à fait d'accord.
Eh bien, première question. Le 29 et 30 avril 2023, le CAR avait convoqué un congrès qui n'avait pas bien fini. Hein, ce cinquième congrès statutaire du CAR et la décision de la mise en place d'un bureau transitoire que M. Nador Aoukou dit présider, selon le droit, selon la loi, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce bureau transitoire supposé issu du congrès des 29 et 30 avril 2023?
Je vous remercie pour cette question. Je voudrais d'abord dire que en droit, il y a le principe et l'exception. En ce sens que, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les membres du CAR, les fédérations du CAR, les 47, si j'ai bonne mémoire, sont allés au congrès les 29 et 30 avril 2023 pour rééditer un bureau national. Puisque Maître Yavi Agboibo, l'ancien président, étant décédé, paix à son âme, et d'autres membres également étant décédés, il faille aller à leur remplacement. Et vous savez, tout récemment, l'achat des partis politiques de la République togolaise a été révisé. La loi de 1991 a été révisée en 2022 et a prescrit aux partis politiques qui ont organisé un congrès de plus de 5 ans à la date de mise en vigueur de cette charte-là de régulariser leur situation. Et profitant de cette prescription légale, le parti CAR a décidé d'aller au congrès afin de régulariser sa situation et en profiter pour mettre en place un bureau national puisque beaucoup de membres sont décédés. Donc le statut, je veux dire le statut du CAR prévoit que le scrutin soit de liste, que lorsqu'il y a élection du bureau, des membres du bureau, qu'ils se constituent en liste. Alors, ils ne se sont pas entendus, je crois, sur la production des listes et tout ça. Et donc, la loi, c'est-à-dire leur statut, puisque c'est une convention qui se sont donnée eux-mêmes, et en tant que telle, c'est leur loi. Et le statut prévoit que, en cas à défaut de consensus de liste, les élections puissent se faire poste par poste. Je m'explique. Lorsqu'il y a
il y a beaucoup. Et à ce niveau également, ils ne sont pas entendus. Disons que le congrès des 29 et 30 avril n'a pas pu mettre sur pied un bureau.
Un bureau national.
Un bureau national.
Mais il a mis en place un bureau transitoire qui puisse conduire les destinées du parti pendant au plus 2 ans. Pourquoi transitoire? Parce que les membres du bureau national du parti sont élus pour 4 ans.
Oui.
Et étant donné qu'ils ne se sont pas entendus, ils ont décidé de reconduire les anciennes instances du parti et réaménager en comblant la place de ceux qui sont décédés.
Oui.
C'est ainsi qu'un bureau transitoire a été mis en place et ils ont décidé d'aller à un congrès extraordinaire pour faire de nouvelles élections.
Oui, mais à ce niveau-là, toujours au congrès des 29 et 30 avril 2023, Les images ont beaucoup circulé. Ce congrès avait fini en queue de poisson. Alors dites-nous, M. Kanyi, est-ce que le congrès, le cinquième congrès, a pu formellement adopter la motion portant mise en place de ce bureau transitoire?
Ben, je vous assure que oui. En tout cas, suivant les preuves qui m'ont été transmises lorsque je préparais cette émission, nous avons déjà un procès verbal de mise en place d'une transition à la suite du 5e congrès statutaire du CAR, signé le 30 avril 2023 pour le congrès, le président Yindouba Kolani.
Oui.
Et rapidement, je vous donne l'extrait.
Non, non, c'est un sujet dont nous avons déjà parlé abondamment, le CEPS, le SAP, c'est le côté juridique. Mais M. Kanyi, à ce niveau-là, c'est vrai que nous avons pris connaissance également de ce document signé par M. Kolani, mais il se fait que la motion portant mise en place du bureau transitoire n'a pas été formellement adoptée par les participants au congrès, ce qui lui enlève une certaine valeur juridique et légale. En tout cas, c'est ce que certains militants du CAR disent.
Ben, si la motion n'a pas été approuvée, je ne vois pas pourquoi on aurait sorti un procès verbal issu de ce congrès-là et également un rapport qui a été transmis au ministère, au ministre de la décentralisation, puisque la loi dit clairement que une fois que le congrès est organisé, vous devez transmettre la preuve de ce congrès-là au ministre de la décentralisation. C'est l'article 27 de la charte des partis politiques qui le dit. Donc, cela a été transmis au ministre de la décentralisation le 15 mai 2023.
Merci. Mais il n'empêche que le 27 mai, le même cas a tenu la deuxième mi-temps de leur congrès de fin avril. Congrès à l'issue duquel M. Robert Yao Daté a été élu président national à la tête d'un bureau. Alors, selon la loi, selon la constitution togolaise, selon la charte des partis politiques au Togo et selon les statuts du CAR, est-ce que le congrès bis du 27 mai est légal?
Bon, moi, à mon avis, en tant qu'observateur juridique, je dirais non. Pourquoi non? Parce que Et j'ai parlé tout à l'heure d'un procès verbal issu du 5e congrès du 29 et du 30 avril 2023 signé par le président Kolani lui-même qui dit que ils ont mis en place un bureau transitoire pour aller dans les meilleurs délais à un congrès extraordinaire. Alors, même si vous avez tenu un congrès où vous n'avez pas débattu de tous les points inscrits à l'ordre du jour, du moment où vous avez déclaré que ce congrès a fini ses travaux, je pense qu'il faille aller soit à un nouveau congrès, soit à un congrès extraordinaire pour débattre des points inachevés. Mais reprendre un congrès, moi, j'ai parcouru un peu les statuts du CAR. Je n'ai pas lu quelque part qu'il faut reprendre un congrès. On peut organiser un nouveau congrès, mais pas reprendre celui qui est achevé ou aller à un congrès extraordinaire, comme l'ont dit eux-mêmes.
Mais en ce temps, nous avons appris que c'était un certain nombre de fédérations du CAR qui avaient formellement demandé la tenue du congrès bis.
OK. Alors, le statut prévoit également que la décision d'organiser un congrès est de la compétence du comité directeur ou à la demande des deux tiers des fédérations. Alors, si les deux tiers des fédérations ont fait la demande de tenue d'un nouveau congrès, il faille l'organiser, mais dans un délai de 2 mois à l'avance. Alors, le congrès du 27 mai a été convoqué par M. Kolani le 19 mai par lettre adressée aussi bien aux militants qu'au ministre de la décentralisation. Et le congrès est tenu le 27 mai, donc 8 jours à l'avance, ce qui, à mon avis, ne respecte pas les statuts du CAR.
Merci. Alors, venons-en à cette saisine de M. Nador Aoukou, agissant comme président du bureau transitoire du cas. Il a saisi le juge des référés le 25 mai pour que les sœurs Kolani Yendouba et Robert Daté soient déboutés de ce qu'ils ont fait au congrès du 27 mai. Et le juge des référés s'est déclaré incompétent pour aller au fond. Alors, qu'est-ce que le commun de nos auditeurs doivent comprendre, aussi bien par la saisine faite par M. Nador Aoukou que de la décision donnée par le juge des référés?
Je vous remercie. Déjà, je voudrais rapidement rappeler que un congrès, s'il est décidé par le comité directeur, il doit être préparé par le bureau national et non pas le président du bureau. Et c'est M. Kolani qui a convoqué ce congrès du 27 mai. Et alors, il s'agit en fait d'un acte d'administration, d'une contestation relative à l'administration d'une association. Mmh. Et en tant que tel, lorsque il s'agit contestation relative à la direction d'une association, notamment une succession par exemple, une entreprise, le juge des référés est saisi pour traiter de cette contestation là, quitte à lui de décider de désigner un administrateur provisoire en cas de difficulté d'administration d'une succession, d'une entreprise, etc. Mm-hmm. Donc, le parti politique étant une association à but non lucratif et donc une association civile, moi, je pense que le juge des référés était compétent pour décider de l'annulation de ce congrès-là et du bureau issu de la reprise du 5e congrès statutaire du CAR. Mm-hmm. Donc, vous savez, le juge a un pouvoir discrétionnaire. Le juge a pris la décision selon laquelle il est incompétent au regard des demandes formulées par les deux camps. Mm-hmm. C'est-à-dire que M. Nador et consorts ont demandé à ce qu'on annule le congrès du 27 mai, mm-hmm, et qu'on révoque le bureau dont M. Daté est le président, mm-hmm, et qu'on leur interdise de troubler leurs activités au siège, etc. Mm-hmm. L'avocat des requis, c'est-à-dire de M. Kolani
et de M. Daté,
a dit que, étant donné que les demandes formulées par M. Nador et autres constitue en fait des contestations sérieuses entre les parties et que le juge des référés serait incompétent. Mm-hmm. Donc, le juge des référés, moi j'estime que, monsieur l'avocat des requis n'a pas eu une forte conviction de l'incompétence du juge des référés. Pourquoi? Parce que, en demandant au juge des référés de se déclarer incompétent, il a demandé au même juge auquel il demande de se déclarer incompétent, d'interdire au camp Nador et autres de jouir de leur qualité de dirigeant de ce parti-là, de mener des activités au nom du parti et de leur interdire sous astreinte de 5 millions, si j'ai bonne mémoire, d'exercer des activités au nom du cas et de jouir du siège. Mmh. Alors que tout récemment, en juin 2023, le bureau transitoire du cas est allé payer le loyer trimestriel de juin à août 2023, mmh, aux bailleurs. Mmh. Mais on leur a ensuite interdit d'utiliser les lieux. À ce que j'aurais appris même, on est allé défoncer les portes en leur interdisant.
Qui ont?
Bon, j'ai été informé de ce que le camp Daté a défoncé les portes de siège et a interdit l'usage des lieux au comité et au bureau transitoire. Et M. Daté a même pris des actes en juin pour demander aux membres du bureau transitoire qui auraient à leur usage les locaux du siège, de remettre les clés, et la même décidé de suspendre ou d'arrêter le paiement des salaires au personnel administratif.
Pas alors, facile tout ça. Alors, monsieur Kanyi, c'est le juge des référés qui s'est déclaré incompétent. Ça veut dire que l'un ou l'autre camp peuvent toujours saisir un autre juge.
Tout à fait.
Mais aussi bien la justice que la sagesse de l'arbre à palabre avec l'esprit d'Agboibo, qu'est-ce qu'on peut suggérer aux deux camps antagonistes du cas comme sortie de crise harmonieuse?
Bon, on dit un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Moi, j'estime que aujourd'hui, même leur statut est déjà clair. Lorsque vous ne vous entendez pas sur une liste de candidatures, vous pouvez y aller poste par poste. Et les votants, et les statuts ont été clairs, les votants sont libres de voter pour un candidat d'une liste ou d'une autre. C'est-à-dire, je prends un exemple, il y a la liste A, la liste B, la liste C. Il y a le poste de président sur la liste A, le poste de président sur la liste B, ainsi de suite. Le votant peut choisir le président sur la liste A, le vice-président sur la liste B, le trésorier sur la liste C. Leur statut le prévoit.
Autrement dit, s'ils se retrouvaient
entre eux, ils peuvent s'entendre. Et si chacun est vraiment confiant de son électorat, il faille aller au jeu démocratique. Ils doivent être sereins sur leur électorat et permettre à
ce que... Merci beaucoup, Monsieur Kanyi Foli Maxime, consultant en droit privé que nous avons souhaité avoir pour partager avec nous son analyse juridique de la crise et éventuellement d'une sortie qui préserve l'esprit au sein du CAR. Et Germain et Franco, je ne sais pas si les commentaires... L'explication de M. Kanyi suscite en vous une réflexion? Oui ou non? Sinon, c'est un sujet dont nous avons beaucoup débattu.
Vous savez, il faut que les gens s'en laissent l'amusement là. Ce pays a des problèmes. Le pays a des problèmes. Circulez dans le Togo profond, vous allez voir la misère dont les gens souffrent. C'est un parti politique. Quand ça n'allait pas, Apevo est sorti. Maître Dodi Apevon a créé son parti. On a vu dans ce pays CDPA, CDPA BT. Si vous voulez, les gens aussi peuvent fabriquer des choses comme ça. Ou bien. Donc moi, c'est ce que moi je peux leur conseiller. Nous, on a des soucis. On a des plaintes tous les jours dans nos organes qu'on n'arrive même pas à traiter. Et nos cheveux deviennent tellement blancs le plus rapidement.
Prématurément.
Mais donc ça veut dire que eux là, ils ne regardent même pas les problèmes des Togolais. C'est très important, il faut changer.
Que, comme la DMP le demande, si on devrait faire les élections législatives d'ici décembre, comment est-ce que ces militants du CAR allaient s'organiser pour de telles échéances? Mais on dirait que c'est... Ils vont...
Non, mais c'est comme tout le problème de la presse. Ce sont les problèmes des partis politiques. C'est tout à fait normal. C'est l'ensemble de ces problèmes qui font le problème du Togo, si on peut le dire. Maintenant, je crois quand même que la voie judiciaire est intéressante parce qu'il faut utiliser la justice pour trancher les litiges. Et espérons qu'un autre juge ne se déclare pas incompétent et que ça aille jusqu'au bout. Après, ceux qui ont raison dirigent le CAR, ceux qui n'ont pas raison, s'ils veulent sortir du CAR, s'ils veulent créer un autre parti, ils le feront. Mais là, on sait que le droit a été dit et que tel a eu raison, tel a eu tort. Maintenant, je crois que s'ils sont allés à la justice, c'est que le règlement à l'amiable a été impossible. Et quand on voit une famille, on en voit, on voit des frères aller en justice pour des histoires d'héritage, c'est régulier, c'est la même chose. Donc je pense qu'il vaut mieux aller dans cette voie et que la justice tranche à la satisfaction des deux parties après que les conséquences soient tirées.
Merci, oui, nous revenons.
Monsieur Kanyi. Rapidement quelque chose en réaction à notre...
Germain Pouli.
Germain Pouli.
Germain Pouli.
Pouli, excusez-moi. Alors, dans la société, lorsque vous ne vous entendez pas, il faut aller devant la justice. Ce qui est fait... Et à toute hauteur de procédure, les partis peuvent toujours aller à un règlement amiable, produire le PV de règlement amiable au juge qui est lié, qui l'homologue et qui met fin à, au procès. Et donc, aujourd'hui, il existe des voies de recours à cette décision, à cette ordonnance du juge des référés. Et le Canada peut saisir la cour d'appel, le juge des référés de la cour d'appel, pour attaquer l'ordonnance prise par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lomé, ou aller directement devant le juge des fonds pour faire connaître les contestations sérieuses qu'il y a là. Et donc, le juge va pouvoir examiner toutes les demandes des parties, dans la mesure où le juge des référés s'est déclaré simplement incompétent, il n'a débouté aucune partie. Et donc, aujourd'hui, il vous dit, moi je ne suis pas compétent, allez devant un autre juge qui serait compétent. Donc, on ne pourrait pas parler de débouter de chaque partie. Donc, le juge s'est déclaré incompétent et donc on doit aller devant un juge de fond.
Merci. L'un ou l'autre camp peut faire recours bien ou bien revenir à la sagesse africaine de l'arbre à palabre. Quittons le cas pour un moment et allons au Togo dans ses efforts de coopération pour que l'économie soit plus croissante et que le développement devienne réalité. Revue de presse avec l'Éveil de la Nation qui revient sur cette nouvelle que nous avons eu cette semaine, à savoir le Togo qui se révèle un bon élève en matière de politique et d'institutions publiques avec le dernier rapport de la Banque mondiale qui a porté sur l'évaluation des politiques publiques et institutions nationales en Afrique. Le Togo qui s'en sort avec un score de 3.7, ce qui le situe dans le peloton de tête dans les pays africains. Cette semaine, on a également vu le gouvernement, avec à sa tête la première ministre, continue les concertations avec la Banque mondiale. Le Togo qui veut se voir éligible pour conforter davantage la résilience pour ces défis toujours qui nous attendent. Cette semaine, on a également vu le dialogue entre le gouvernement du Togo et l'Union européenne. À ce sujet, le confrère l'Union reproduit une interview de l'ambassadeur Joachim Villalonga, donc l'ambassadeur à cœur ouvert, et qui dit le Togo est un partenaire fiable et solidaire. Article, même interview reprise par le confrère Le Canard Indépendant, qui cite aussi Villalonga, qui dit que le Togo est un partenaire fiable. Voilà aussi bien pour ce score que le Togo réalise dans le rapport d'évaluation de la Banque mondiale, les concertations avec la même Banque mondiale pour plus de facilité de crédit au défi, et puis le dialogue entre l'Union européenne et le Togo. Germain?
Ben, je crois qu'il faut que le Togo le profite de cette embellie à la fois nationale et internationale, surtout de ce capital sympathie. Donc, sur le Togo, vous savez que le président togolais, dans la crise qui secoue plusieurs pays de la sous-région, a su s'attirer la sympathie de plusieurs autres pays. Et ça, c'est sur le plan politique, et c'est une bonne chose. On a même des Togolais qui profitent un peu de cela. Henri, on peut revenir sur quelques exemples. Mais après, sur le plan développement et économie, le dernier rapport de la Banque mondiale vient aussi être suite à tout là sur lequel le Togo peut miser pour mieux mobiliser les recettes, parce qu'on a besoin d'argent pour financer le développement, et ça, c'est vraiment à saluer. Et maintenant, certains Togolais voient ça de loin, un peu spectateur, alors que c'est des faits réels. Et il faut s'imbriquer dans cet élan-là, parce que nous sommes un pays qui devient un pays sérieux, qui prend la tête de plusieurs classements, on a vu récemment.
En matière de réforme,
même les derniers ports en Afrique, le Togo fait partie des 5 meilleurs ports. Je crois que Francisco reviendra peut-être là-dessus encore. Mais c'est des classements que le Togo n'a pas organisés. C'est des institutions internationales, de grandes institutions, comme la Banque mondiale, qui est le banquier des États. C'est comme votre banquier vous dit, mais vous êtes bon, vos finances sont en forme, venez, on vous donne un peu plus d'argent pour vos projets. Tout ça, le Togo est un peu dans cette situation. et va bénéficier donc de financements supplémentaires en plus des capacités de mobilisation du pays, parce que le Togo a fait des réformes et aujourd'hui le Togo arrive à mobiliser beaucoup plus en interne, en plus de ces apports extérieurs-là. Mmh. Et maintenant, il faut que les Togolais comprennent et s'investissent, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat privé, mmh. et qu'on voit émerger non seulement les capitaines d'industrie, mais de jeunes entrepreneurs, qu'on profite de cette embellie-là et donc de ces opportunités qui se présentent au Togo.
Il y a également ce forum ouvert aujourd'hui, qui continue aujourd'hui, ouvert hier, qui continue aujourd'hui sur la problématique des PME. Comment leur trouver beaucoup plus de financement hein, pour consolider notre économie. Forum ouvert par la Première ministre, organisé par le cabinet de Didier Akwete, entre autres. Oui, Franco Napokoura.
Oui, les agrégats, c'est toujours beau. On les utilise hein, aussi dans les écrits, dans nos projets, dans les articles. Mais il faut qu'on dépasse hein, les agrégats. Vous venez de parler des PME, PMI. Qu'il faut soutenir. On ne peut pas soutenir les PMI, c'est-à-dire leur trouver des financements, tant que le pays même n'a pas de banque. D'accord ? Après avoir liquidé toutes les banques, on dit qu'on veut créer une banque, alors qu'on pouvait simplement transformer une des banques. Il y a encore une en sursis qui est UTB.
Ouais, UTB pour laquelle on n'arrive pas encore à trouver preneur. Sinon, il y a longtemps qu'elle aurait été également privatisée.
Voilà, comment liquider l'UTB avec toutes ces infrastructures et aujourd'hui crier que nous voulons ouvrir ou bien créer une banque pour soutenir l'initiative privée au pays. C'est contradictoire. Bon, maintenant, je voudrais voir, hein, parce que depuis, on voit les projets financés, que ce soit par le FMI ou la Banque mondiale, et on entend toujours, mais on ne voit pas véritablement le cœur hein, de ces projets hein, qui est vraiment accompli hein, dans les règles de l'art. Aujourd'hui, c'est la corruption qui a gangréné tout. C'est-à-dire, vous pouvez, la Banque mondiale peut donner. Germain a dit donner, mais on ne donne pas, on prête.
Et peut donner à qui?
Non, de l'argent au Togo, vous avez dit
non, tout la Banque mondiale, oui, je prêts.
Je viens de dire, c'est le banquier des États. Voilà. Le banquier ne donne pas de l'argent.
Vous avez dit donne.
Chef, je t'ai dit le banquier des États.
Oui, j'ai dit.
Ton banquier ne donne pas de l'argent.
Voilà, c'est prêté.
Et donc, mais la Banque mondiale fait également des dons aux États.
Oui, mais c'est moindre, mais c'est beaucoup plus de prêts.
Oui, mais souvent ça passe par où? D'accord. Aujourd'hui, quand vous voyez, quand on analyse l'économie, et les agitations, que ce soit au niveau du ministère des Finances ou au niveau de l'OTR, on constate malheureusement que c'est comme nos caisses, elles sont vides. Mais il y a des individus qui sont surliquides, et ce qui n'est pas normal pour un pays. Donc il faut revoir les choses. Tant qu'on ne lutte pas contre la corruption, le favoritisme, le despotisme, comme les gens le disent, on ne peut rien faire avec l'argent de la banque, même Dieu. Peut descendre au Togo, il va fuir parce que.
Merci. Cette semaine a également rimé avec l'assurance maladie universelle qui a été au centre du Conseil des ministres tenu mercredi dernier. Les journaux reviennent là-dessus dans l'Union pour la patrie qui écrit la page 4. Les contours de l'assurance maladie universelle, une contribution mensuelle forfaitaire pour les assujettis vulnérables. Les décrets pris par le gouvernement qui détaillent l'un ou l'autre aspect. L'éveil de la nation met également le sujet à sa manchette avec ce titre. Assurance maladie universelle, Fort Niassingbé met le pied sur l'accélérateur. Et puis Togo Matin, qui est également à la page 3, est écrit Conseil des ministres, Fort Niassingbé déterminé à étendre la protection sociale. Franco, tu as suivi la décision du Conseil des ministres avec tous les décrets qui abordent l'un ou l'autre aspect, surtout le 1er janvier 2024, c'est dans moins de 3 mois, comme le départ décisif de l'extension de l'assurance maladie à tous les Togolais.
Oui, c'est bien. Vous savez, le titre là est très bien. Fort Niassingbé met l'accélérateur. Mais on a l'impression que autour de lui, on le tire vers l'arrière. D'accord ? Et je me demande si on peut aboutir à cet objectif en janvier. En fait, c'est un souhait hein, que nous tous nous soyons assurés, mais les faits et les gestes des uns et des autres ne nous donnent pas l'assurance qu'on pourra véritablement y arriver. Il suffit de voir. L'INAM, par exemple, c'est la collecte des fonds, bien sûr, avec quelques subventions ici et là. La collecte des fonds des employés et salariés. Mais allez voir comment c'est géré. C'est un souci. Donc, tant que, je dis, la corruption, on n'est pas prêt à le combattre, à cesser avec, d'accord ? Tant qu'on continue dans l'impunité des crimes économiques, on ne peut être que sur place. On aura de belles intentions, comme on l'a dit, un beau un environnement économique très reluisant, comme on l'a toujours. Mais dans les faits, quand l'investisseur arrive même, hein, Yadema le disait, les investisseurs hésitent. Hein, c'est comme ça, ils ont hésité jusqu'à son départ. Donc, et ça continue, puisque ceux qui viennent d'ailleurs pour dire qu'ils investissent, ils viennent comme notre pays n'est pas protégé pour la fuite des capitaux. C'est comme ça, les gens viennent et ils travaillent. Au fur et à mesure, ils font partir les capitaux. Merci. Il y a le cas de
Lydia. Je rappelle que Lydia, le sujet, c'est l'assurance maladie universelle.
Oui, je dis que ce soit l'assurance maladie, oui, tous les autres projets, de toute façon, moi, je ne me fais pas d'illusions, parce que le chef de l'État peut beau appuyer sur l'accélérateur, tant que ses collaborateurs sont mal choisis, tant qu'il y a trop de businessmen autour de lui, ça n'ira pas loin.
Merci. Et toi, Germain ?
Mais voilà, par rapport à l'assurance maladie, je crois qu'il y a un nouveau ministre qui est nommé, qui s'occupe de ce portefeuille-là, qui a fait ses preuves dans le privé en tant qu'assureur, justement. Donc, je crois que c'est un bon signal de voir une telle personnalité à ce poste-là pour conduire cette affaire qui est une vraie préoccupation, pas africaine et pas nationale, mais africaine, parce qu'on a du mal à se soigner. Et parce que se soigner devient de plus en plus cher, et donc il faut ce dispositif-là de solidarité entre tous les contributeurs pour que ceux qui sont malades à des moments donnés puissent être soignés. Et ça a pris beaucoup de temps parce que l'État a pris soin de mettre en place tout le dispositif. On ne peut pas lancer cela tant qu'on n'a pas les formations sanitaires depuis les hameaux les plus reculés jusqu'aux grandes villes. Et je crois que c'est dans ce cadre qu'il y a eu des centres de santé qui ont été mis en place et aujourd'hui on évolue. Donc si janvier ça devient effectif, ça va être un vrai soulagement pour les Togolais. Et je crois que nous-mêmes, en tant que communicateurs, on fait la même erreur. Nous, dans notre projet au Conap, on en parle. Mais on en parle tous les jours, les journalistes meurent. On se plaint, mais on ne prend même pas la peine d'assurer nos collaborateurs ou même les gens. Il n'y a que le Saint-Gilles qui a eu la présence d'esprit, hein. C'est juste une organisation d'employés, d'aller vers l'INAM et de travailler dans ce sens-là. Mais nous, en tant que patron de presse, on est là en cri, on n'arrive pas à se soigner, mais il y a un dispositif assez facile qui nous permet de nous soigner, on ne le fait pas. Il y a des assureurs privés, certains offrent des conditions un peu plus onéreuses, mais efficaces, on ne le fait pas. Et donc, ce projet de l'État, je crois que si ça arrivait et que ça peut être obligatoire, parce qu'en Occident, les gens se soignent parce qu'on a rendu l'assurance obligatoire. Merci. On ne vous laisse pas le choix.
C'est vrai, comme tu l'as dit, grâce à l'initiative du Saint-Gilles, certains journalistes, certains organes ont assuré leur personnel. D'autres également l'ont fait individuellement. C'est une belle initiative. Maintenant que le syndicat a commencé, les organisations patronales, comme CONAP, comme PPT, comme Atopel, eh bien, tous les autres peuvent continuer. Et puis, d'après quand on lit les décisions du Conseil des ministres, on comprend que l'INAM porte principalement l'assurance maladie, mais cette assurance peut être étendue, et est déjà étendue à des assurés privés, et une partie également pourrait être également dévolue à la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui, Franco, tu voulais faire
Ce que je voudrais dire, en prélude même à l'assurance maladie universelle, je pense que l'État peut réactiver ce qu'on appelle le premier soin. Le premier soin. Aujourd'hui, quand même vous faites un accident, vous arrivez, on vous débarque, même si c'est les sapeurs-pompiers qui vous débarquent dans le centre de santé, tant qu'il n'y a personne pour aller d'abord payer le bon, on ne vous touche pas.
Le blessé reste là.
Le blessé reste là-bas avec du sang sur le corps. Mais quand quelqu'un arrive à lui payer le bon, tout est facturé. D'accord? Il faut appeler, il faut acheter le médicament, il faut acheter le coton, il faut acheter l'alcool. Il faut qu'on commence par là, c'est le minimum. Il y a quelques années, mais nous, on a eu à bénéficier de ça. Mais regardez la Caisse nationale de sécurité sociale, dont le bâtiment est en délabrement ici. Mais il y avait une infirmerie de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ici, on nous soignait avec un personnel qualifié. D'accord? Et les médicaments, les produits étaient gratuits. Vous allez à l'infirmerie des choses, des camps militaires. Mais c'était la même chose. Il y avait des services qui faisaient. La dernière fois, quand l'OTR recrutait un médecin, j'avais dit, l'OTR allait moins. C'est l'OTR qui fait plus de 70%, n'est-ce pas, du budget. L'OTR allait moins pour un 5 millions. Faire, par exemple, un hôpital polyvalent comme on le voit à Mango. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a un minimum pour merci. Pouvoir aller s'élargir.
Voilà. Je m'associe à cette plaidoirie pour les premiers soins dont nous devrions bénéficier en attendant qu'un parent arrive. Et même si vous êtes assuré, vous faites d'abord les dépenses et après que l'assuré... c'est après l'assurance. Que l'assurance se pointe. Mais dit, est-ce que vous avez l'assurance que vous allez vivre jusqu'à ce que l'assurance arrive? C'est un jeu de mots, mais qui dit tout. Il est midi, passé de 2 minutes. Nous marquons une pause. Le temps que Thomas adresse les clins d'œil de Canal FM à nos partenaires. Puis nous rebondissons avec les auditeurs. Ils pourront intervenir sur les deux numéros. Le 22, 21, 33, 74 ou le 91, 36, 63, 75. Pour poser des questions à l'un ou l'autre invité ou bien partager.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
À présent, la parole est à vous. Vos questions, vos commentaires sur l'un ou l'autre sujet. Monsieur Kanyi et les deux confrères Bande Franco et Germain et Pouli sont là. Premier auditeur déjà en ligne, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Nicolas Agbo.
Nicolas Agbo.
Oui.
Eh bien, nous vous écoutons.
Bien, je voudrais vous remercier, saluer et féliciter mon grand frère, Monsieur Pouli, pour son élection à la Caisse du CONAF.
Merci, c'est gentil.
Et je viens de suivre votre invité, M. Kanyi,
oui.
Qui, selon vous, est consultant et un analyste sur la question du CAR.
Oui.
Je vous avoue que je suis scandalisé en tant que Togolais par rapport à tout ce qu'il a dit et qui, en quelque sorte, c'est entre ce qu'il a dit, c'est la réalité, c'est le jour et la nuit.
Mm-hmm.
C'est le jour et la nuit. Bon, il est érigé en avocat défenseur. Le congrès qu'on a eu à faire les 30 n'a débouché sur rien. On n'a rien adopté. Le rapport dont Colani a signé, a envoyé au ministère, c'est un rapport de commission spéciale. Et non le rapport d'un congrès comme la fait partie le dit.
Mm-hmm.
Et ça, et c'est un congrès extraordinaire que nous avons eu à faire parce que quand M. Akwebo est succédé, on a eu à faire une transition. Et nos statuts n'ont pas prévu une transition à la sortie de, au sortir d'un congrès.
Mm-hmm.
En réalité, c'est ça. Mais quand le congrès s'est terminé à cause de poisson et que nous avons laissé du Damoclès sur le texte de l'achat des partis politiques, nous avons obligation d'aller au congrès et laisser prévoir que lorsqu'on est dans cette situation, les deux tiers des fédérations peuvent demander. Et c'est ce qui a été fait.
Merci, M. Agbo.
C'est le comité directeur et le bureau national.
Oui, M. Agbo.
Mais c'est précis que quand on ouvre le congrès et qu'on a le bureau du congrès, tous les organes tombent. Mm. N'existe plus parce qu'on a un président congrès.
Merci.
Donc, alors, monsieur. Vous pouvez aller consulter le comité directeur ou quoi que ce soit.
M. Agbo, oui. Bon, pour l'avenir maintenant, quelle issue de sortie, vous, je rappelle que vous êtes le vice-président du président Daté, quelle issue de secours ou bien quelle sortie. Entrevoyez-vous pour que le cas reste toujours ce parti qu'on a toujours connu?
Nous sommes clairs. Il faut que ce soit clair dans les esprits des gens. Notre congrès a été organisé conformément à nos statuts. Il y a un bureau qui en est issu.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, nous avons dit à nos amis, venez, il y a de la place, nous avons travaillé ensemble. Ils sont allés nous traduire en justice. Ils ont été déboutés. Celui qui a dit qu'ils n'ont pas été déboutés n'a pas raison parce que il faut aller voir les deux avocats, comment ils ont plaidé. leur avocat a dit que le juge des référés est compétent. Le nôtre a dit non. Mais si on dit si le juge dit qu'il n'est pas compétent, ça veut dire qu'ils sont déboutés. Donc,
oui, nous, monsieur Agbo, au-delà de la justice, question, après
qu'ils reviennent à la maison,
oui,
qu'on travaille ensemble.
Vous êtes prêt à les accueillir.
Du parti.
Merci.
Mais ce qui est regrettable.
Merci, merci, monsieur Agbo.
Je sais que je vous dis que cet homme est qui est le ver dans le fruit. C'est lui qui les finance. C'est lui qui les oriente.
Monsieur, monsieur Agbo, vous nous avez écoutés, vous avez co-animé avec nous. Nous vous remercions. Nous vous souhaitons bonne chance pour que le cas arrive à régler ses problèmes en interne. Ou pas la justice si besoin est. Deuxième auditeur, bonjour. Ah, il est parti. Ok. Alors, en attendant que le prochain auditeur s'annonce, Monsieur Kanyi,
oui.
Vous avez écouté, monsieur. Ok, attendez, l'auditeur qui est prioritaire, il vient d'entrer en ligne. Bonjour. Allô. Bon, Monsieur Kanyi,
oui.
En une minute pour répondre à Monsieur Agbo.
Oui. Ben, moi, je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. La seule chose que je puisse dire, ben, si les parties estiment qu'elles ne sont pas satisfaites par la décision de justice, elles ont la latitude de poursuivre. Mais je répète, les parties n'ont pas été déboutées en ce sens que pour être débouté, il faudrait que le juge examine vos demandes, notamment l'objet du litige. Ce n'est pas une question de compétence ou d'incompétence. Il faut aller au fond de vos demandes avant qu'on ne dise que cette demande que vous avez formulée est mal fondée. Mm-hmm. En ce moment-là, on peut parler de débouté.
Mm-hmm. Merci beaucoup.
Le juge n'a pas examiné les demandes formulées par les parties.
Merci. Voilà. L'auditeur qui est en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est Komi.
Komi, nous vous écoutons.
Oui, nous tenons à encourager votre frère Francisco pour la période qu'il traverse.
Les épreuves.
Oui, bien sûr. Nous tenons à l'encourager à tenir bon parce que vous êtes aussi loin des journalistes qui fouillent beaucoup, dont les analystes, les analyses plutôt nous éveillent. Nous réveillent, nous édifient, nous éduquent. Donc, que la peur ne prenne pas place au mutisme, comme on a fait renvoyer d'autres vers l'extérieur. Plutôt que ça vous donne plus de galons à beaucoup fouiller pour que le pays avance.
Merci.
Je tiens sincèrement à le faire et je tiens à vous poser cette question. Il semblerait que l'affaire a démarré avec la HAC. Arrivé à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Et que c'est maintenant c'est la police judiciaire. Est-ce que l'affaire est une question de criminalité? Merci.
Merci beaucoup, merci. Franco. Oui, Franco, rapidement pour répondre à notre ami Komi.
Je l'ai pas bien sûr.
Ah, il t'a félicité, il t'encourage à tenir bon. Mais il semble que ton affaire a commencé devant la HAC. Comment devant la HAC la même affaire et toi-même vous retrouvez devant la direction centrale de la police judiciaire.
Ah, merci beaucoup, monsieur Komi. Au fait, l'affaire, c'est la HAC même, dans un premier temps, qui avait fait un monitoring. Bon, non, la HAC le fait régulièrement à chaque parution des journaux. Donc, quand on était saisi, donc nous avons donné les démarches, donc la HAC même a apprécié. Et c'est après que, je crois, le conseiller du ministre de la Justice a été à la HAC pour aller s'enquérir des nouvelles, des choses. Et la HAC lui a confirmé qu'elle n'a rien à reprocher à l'article du journaliste. Sur le plan professionnel. Et que c'est un professionnalisme qui a été exercé. Donc, il n'y a pas lieu de poursuite, puisque à la HAC même, la HAC n'a pas de défaillance à la production.
Mm-hmm.
Donc voilà, donc c'est contre toute attente. Je crois que la HAC même a été surpris que cette affaire est allée jusqu'à atterrir à la direction de la police. Oui.
Merci. Nous suivons, comme c'est déjà enclenché, nous suivons avec l'espoir que tout cela donnera du bon. Les auditeurs, encore une, deux minutes à recevoir vos questions, vos commentaires. Eh bien, Monsieur Kany, encore un élément à l'endroit de Monsieur Agbo. Ok, un auditeur qui vient de s'annoncer. Bonjour. L'auditeur en ligne, bonjour. Décidément, ce matin, il y a un peu de...
De cafard dans la ligne.
Bon, oui, il est là. Oui, bonjour l'ami. Apparemment, il n'a pas le retour. Il ou elle? Allô? Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Assiombo à l'appareil.
Monsieur Assiombo.
Oui, Monsieur Sarotik, une question à vous-même.
Oui.
Pourquoi dans les affaires comme ça, là, l'affaire du cas, vous n'arrivez pas à recevoir les deux cas en même temps?
En même temps. Nous allons y arriver. Soyez rassurés. Vous rappelez que nous avons eu Monsieur Agbo, nous avons eu Monsieur Nador. Okay. Aujourd'hui, nous avons voulu avoir l'éclairage juridique, mais si la question persiste, nous allons faire une émission spéciale avec l'espoir que les deux parties seront ici au studio avec nous.
Ok, merci, bonne émission.
Je vous en prie. Eh bien, le tout dernier auditeur aujourd'hui, oui, bonjour.
Salut, monsieur.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est Abdoul.
Abdoul.
Non. Moi aussi, j'encourage monsieur Francis Nako.
Mm-hmm.
Parce qu'il dit toujours la vérité sur vos antennes.
Ah.
Mais moi, je ne suis pas content de l'élection de monsieur Jean-Marie.
Et pourquoi?
Non, parce qu'il ne parle pas bien d'être voulu. Il encourage toujours. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui.
Abdoul, vous êtes
quand
journaliste?
Quand vient sur la télé, chose, nouvelle chose là, New World TV là, il ne me plaît pas.
Oui, Abdoul.
Oui.
Est-ce que vous pensez que ce que vous dites, ça plaît à tout le monde ici dans le pays?
Il n'a qu'à parler.
Répondez-moi. Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous dites, que ça plaît à tout le monde dans le pays, même dans votre famille?
Tout ce qui s'ouvre, ça leur plaît. Mais bon, ceux qui ne sont pas dans le pays, ça ne va
Abdoul,
pas les
plaire. L'ami Abdoul, nous avons parlé du 5 octobre, c'est pour rappeler que l'un des principes que nous continuons à défendre, c'est la liberté d'opinion et d'expression, également la tolérance, le respect de l'opinion de l'autre, même si vous n'êtes pas d'accord. C'est important, l'ami Abdoul. C'est important. Autant vous appréciez quelqu'un, autant vous pouvez ne pas apprécier l'autre, mais autant, ne soyez pas surpris que ce n'est pas tout le monde qui vous apprécie, vous non plus, de ce que vous dites. Mais nous, au Club de la Presse, et c'est la démocratie, nous laissons parler tout le monde. Et à la fin, on verra bien qui est dans le vrai, qui est dans le tort. Mais Germain, tu as quand même quelqu'un qui te suit bien, aussi bien au Club de la Presse que tous les médias où tu vas.
Alors, ben, comme vous l'avez dit, on fait ce travail avec nos forces et nos faiblesses. Il faut beaucoup de tolérance parce qu'on n'a pas les mêmes visions, mais toutes ces visions, parfois contradictoires, sont importantes pour qu'on avance. Donc la pluralité d'opinion est quelque chose qu'il faut se battre, faut préserver, parce que comme on dit, c'est de la confrontation que jaillit la vérité, la lumière. Mm-hmm. Donc il faut pas qu'on dise tous les mêmes choses, il faut que... Et il y a plusieurs versions et que ceux qui suivent se fassent leurs propres idées, leurs propres analyses après toutes ces visions différentes. Donc c'est un peu ce qu'on fait ici au Club de la Presse. Et on vous félicite aussi.
Et dans les autres médias, dans les autres tribunes aussi. Hein.
C'est ce que nous essayons de faire. Et, ben, on demande beaucoup plus de tolérance parce que on a le droit d'exister, on a le droit de faire passer nos opinions comme les autres. Ont le droit aussi de passer leurs opinions. Il faut que chacun soit tolérant, qu'il accepte avec beaucoup de fair play, que l'autre puisse avoir raison. Et comme le disait un penseur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai.
Pour que tu puisses le dire.
Vous puissiez le dire.
Merci beaucoup. Tu as la parole, tu la gardes en même temps pour ton carton de fin d'émission, de fin de semaine.
Ben, le carton de fin de semaine, fin d'émission, c'est le Cialo, c'est... le Salon international de l'agroalimentaire qui revient donc dans ce mois d'octobre. Et mois d'octobre aussi consacré à la promotion de la consommation locale. Je nous invite à faire l'effort de toucher nos produits, de les acheter, de le consommer, d'en être fier. C'est un mois que le mois a institué pour nous rappeler ce besoin-là, parce que nous devons nous tourner vers ce que nous produisons, consommer ce que nous produisons, produire ce qu'on consomme, et nous serons développés.
Merci à toi, Germain. Sohana Pouli, Francoisi, Francisco Bande Napokura.
Oui, justement, comme l'a dit Germain Pouli, il faut beaucoup de tolérance hein, de la part des auditeurs. Vous nous suivez, hein, vous nous regardez, et la réalité est ailleurs. Nous, on est amis, on est souvent ensemble, et on vit dans la fraternité, la confraternité. Et donc, je dis merci hein, à tous les auditeurs, à tout le monde, tous ceux qui s'inquiètent de nos nouvelles, hein, pour voir comment on se porte. Et ça va, on est là. Et puis, ça spécialement, je vais vous dire que hier, hein, ça faisait 10 ans hein, que j'ai eu mon diplôme en management des médias à l'ESJ Lille, à l'École internationale de journalisme de Lille. Hier, j'ai encore revu les photos. Je crois que les prochaines publications, nous aussi, on va commencer par nous faire la publicité.
Mais je rappelle que nos organes, c'est pour informer le public en priorité.
Mais il faut qu'on s'occupe de nous parce que...
Mais carton vert quand même pour les 10 ans de ton diplôme, cela mérite une bonne troisième mi-temps. Oui, et quand c'est la première fois que tu rencontres le nouveau président du CONAP,
oui, en tant que
je le dis en direct,
en tant que président du CONAP, vice-président du PPT.
Ah, très bien. Germain, nouveau président du CONAP. Franco Napokura, vice-président du nouveau bureau de PPT, cela dit tout.
Pourquoi pour la presse, on sommes des amis, nous sommes des juste en bas.
Merci. Oui. Une minute pour une dernière précision, voir votre un carton à décerner à quelqu'un ou bien oui à quelqu'un.
Ben, je voudrais simplement exhorter les militants et militantes du parti CAR à de la modération et à choisir la voie de règlement amiable ou au besoin la voie judiciaire pour tout clore. D'éviter l'exercice de voie de fait parce que c'est une procédure pénale qui va démarrer contre celui qui va se faire justice à lui-même. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité. C'est bon quand même d'avoir l'éclairage de quelqu'un qui n'est pas directement du cas, qui n'est pas de la presse. Ça nous permet d'avoir une plus large compréhension de la chose. Et je passe par M. Kanyi pour remercier d'avance toutes les expertises, notamment les enseignants-chercheurs, les hommes d'affaires, et beaucoup d'autres que nous allons de plus en plus inviter pour nous enrichir davantage.
Il nous faut aussi un jour prendre des officiers, hein, même à la retraite, pour nous parler de la géostratégie, tout ce qui se passe dans le Sahel.
Mais nous avons déjà eu des policiers, des gendarmes, des militaires ici au club de la presse. Hein.
Je me souviens.
C'est un mouvement que nous allons continuer. Merci. Nous souhaitons à nous tous un bon week-end. Avec l'espoir que nous allons nous retrouver dans ce même studio et avec vous en ligne le lundi prochain. Prions que Dieu le veuille ainsi.
Canal FM.
Ce continent, plusieurs années durant, vous avez été incapable de l'unifier ni de le développer. Aujourd'hui, on assiste au grand retour de l'Occident sur le continent.
En 2000 ans, en 2000 ans, en 2000 ans, en Mariala. En 2000 ans, en 2000 ans, en 2000 ans, en Mariala.
On vous confie nouveau continent. Nous étions trop confiants. Vous avez été incapables de le libérer, ni de le développer. Aujourd'hui on a su se craindre tout de ces vautours sur le continent. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, ça me fait honte. J'ai mal, moi j'ai chaud mal. J'ai mal, ça me fait honte. Ça me fait honte, ça me fait honte, quatre conflits. La Sierra Leone réclame la Grande-Bretagne. Ça me fait honte dans mon pays en cas de conflit, que tout le monde réclame la France. Ça me fait honte au Libéry en cas de conflit, que tout le monde réclame les États-Unis. Ça me fait honte quand les grandes puissances sont réclamées dans le Congo.
En 2009, en 2009, en 2009.